Bonjour chers amis de Radio Courtoisie, bonjour Noël.
Bonjour Pascal.
Alors, de retour.
Enchantée de cette seconde invitation.
Mais oui, voilà. Vous revenez avec trois livres. Vous êtes une poule pondeuse.
C'est un petit peu ça. D'ailleurs, j'en parle dans ce premier livre, effectivement, que nous allons évoquer.
Et quand je dis poule pondeuse, puisque le titre est « Adieu vos vaches cochons », moi je dis bonjour les poules. Mais bon...
Alors, je vais faire une petite blague, j'ai quand même pondu quatre enfants.
Quatre enfants ? Quel âge ont-ils d'ailleurs ?
Oh, entre 20 et 30.
Eh bien, c'est rien du tout. Moi, le mien, il a plus de 50, donc tout va bien. Enfin, mon aîné, j'entends. Et donc, cette entrée en poésie, rappelons à nos amis auditeurs, puisqu'ils ont peut-être perdu un tout petit peu la mémoire de notre première rencontre, qui date de quelques années. Comment est entrée la poésie dans votre vie ?
Alors, la poésie, j'allais dire quelque chose, ça peut paraître présomptueux ou idiot, je ne sais pas. J'ai l'impression que je suis plus ou moins née avec, mais en réalité, évidemment, j'ai assouvi cette passion lors de lectures, principalement. C'est vrai que je ne dirais pas que c'est mon mentor, mais j'ai trouvé une correspondance dans l'âme et l'écriture de Victor Hugo, de Lamartine, enfin des romantiques. Mais je pense que j'avais ça en moi très jeune, puisque j'ai écrit quelques poèmes tout simples, très jeune, effectivement.
Il se trouve qu'à la radio, on dit, et la poésie est faite pour être dite, je ne le répéterai jamais assez, lorsque vous écrivez, vous le dites à voix basse, vous racontez comment la poésie que vous écrivez.
Alors voilà, pas du tout, je ne me raconte rien.
C'est vrai ?
Je crois en l'aspect visionnaire de ces poètes dont nous avons parlé. Et pour moi, j'ai eu souvent l'impression d'être dans une sorte de transe, pas non plus excessive, mais une impulsion subite. Et il fallait absolument que j'écrive. Et parfois, je ne savais pas du tout ça allait me mener. Hein. Je ne crois pas forcément à l'écriture que l'on fomente mot par mot. Non, c'était plutôt une impulsion irrésistible d'écriture. Et puis après, je ne sais pas, j'arrivais à des choses... qui pouvait m'étonner. D'ailleurs, quand je me relisais, je me disais, tiens, j'ai écrit ça.
Adieu vos vaches cochons, ça chemine en amoureuse colline. Vous êtes une fille de la campagne ?
Alors, je suis née à Paris, à Belleville, donc pas du tout. Mais enfin, si, en fait, oui et non. J'ai parti Paris, parti campagne, race campagne, en fait, parce que mon grand-père possédait une maison de famille, donc à la campagne. Dans un tout petit village en Côte d'Or, un village de 26 habitants. Donc là, je faisais le grand écart.
Plus petit, c'est impossible.
Je faisais le grand écart. Effectivement, il y avait plus de veaux, vaches, cochons et chiens que d'habitants, d'ailleurs.
Et aujourd'hui, vous venez de loin pour arriver ici, là, boulevard Murat ?
De Dijon.
Voilà. Et cette Côte d'Or vous reste au cœur ?
Quelque part, oui, puisque finalement, tous mes ancêtres sont bourguignons. C'est d'ailleurs assez rare, mais aussi loin que je remonte, je n'ai trouvé que des ancêtres bourguignons.
Comment étiez-vous venu à Belleville alors par les parents ?
Eh bien, mon père était né à Dijon, il avait fait les Beaux-Arts et étant artiste peintre, une fois marié, il a voulu partir à Paris dans l'espoir de réussir peut-être plus aisément dans l'art.
Et alors ? Il a réussi ?
Papa est décédé très jeune, à l'âge de 48 ans. Et quant à la réussite, c'était pas forcément évident. Je sais qu'il a fait quelques vernissages et autres. Il me semble qu'il avait eu quelques récompenses.
Vous avez de ses œuvres auprès de vous ?
J'en ai deux, trois à la maison, oui.
Mais en fait, qui représente quoi ?
Des paysages. Ah, papa aimait beaucoup les paysages, c'est vrai. Et des natures mortes.
Okay. Et donc, ce « Adieu vos vaches cochons », c'est quoi ? Un livre généalogique, un livre géologique, un livre de mémoire ?
Alors là, par contre, oui, il y a de la mémoire, mais l'impulsion, là, par contre, qui a été bien fomentée, si je puis dire, qui a précédé ce livre, c'est avant tout les massacres qui ont été perpétrés dans le monde de l'agriculture, de l'élevage, des vaches, etc. Et donc, j'ai été profondément remuée par ce qui s'est passé et ces massacres animaliers. Bien sûr, moi, j'y sens une volonté politique, mais ça m'a profondément touchée puisque j'aime extrêmement les animaux, dont les vaches. La vache sacrée, d'ailleurs, on peut remonter au fait que finalement, la vache est considérée quand même comme une déesse, animal vraiment sacré.
Au dernier salon de l'agriculture, il y a eu beaucoup moins de monde parce qu'il n'y avait pas de vache.
Et je les soutiens entièrement. Je les soutiens, d'ailleurs, ils sont venus manifester, les agriculteurs à Dijon. Je les ai interviewés pour diffuser sur les réseaux et je soutiens entièrement nos agriculteurs et notre patrimoine agricole et français.
De fait, ces animaux que vous aimez tant, je me rappelle... un souvenir, nous avons en famille une maison en Haute-Normandie et mon dernier, mon quatrième, il est monté sur le porte-bagages de mon vélo. Et bien sûr, on traverse pas mal de champs d'agriculture et d'élevage. Et chaque fois qu'il y en avait une, il disait « Papa, une vache ! Papa, une vache !» Et il ne distinguait pas les autres animaux. C'était la vache qui était, en quelque sorte, son point de vue d'enfant. Et je pense qu'effectivement, la vache est... un animal sacré, comme vous disiez. Il n'empêche que dans ce livre, vos vaches cochons, adieu aux vaches cochons, eh bien, vous avez choisi que nous lisions ensemble un cygne et ou un moineau, c'est-à-dire en des animaux un tout petit peu plus petits. Pourquoi avoir fait ce choix? Parce que êtes-vous inspiré également par tous les animaux? Ou est-ce que vous avez fait ce choix parce que ce poème vous tient plus à cœur que d'autres? Puis après tout, un poète est un cygne, peut être aussi un moineau. Avez-vous des ailes?
J'espère. Toutefois, c'est vrai qu'ensuite, j'ai sélectionné justement un poème qui figure et qui s'appelle Nuages, en l'honneur d'un veau qui a été...
Alors, peut-être je vous le laisse lire.
D'accord.
Et je vous le laisse lire.
Et on passera ensuite au signe au moineau.
Voilà, parce que nous avons deux pages différentes et je suis content que nous nous rencontrions sous le signe de cet animal qui nous donne à boire le lait de nos enfances. Et merci à vous d'être là.
Oui, parce que c'est l'animal vraiment terrien. Et de la nature et qui est en même temps l'animal nourricier. Donc c'est vraiment important.
Je ne dirais pas que je vais la comparer à la mère qui est nourricière, mais une femme, une mère, une vache, enfin elles ont partie liée, si j'ose dire, puisque c'est d'elles que nous venons, nous tous, humanité.
Tout à fait, exactement. Alors je vais lire ce petit poème, malheureusement très triste, d'un petit veau qui a été, donc je dis, assassiné, je pèse mes mots, avec sa maman vache en Haute-Savoie, en juillet 2025. Et c'est en voyant ce carnage que j'ai commencé d'écrire ce livre pour rendre hommage effectivement à la fois aux animaux et à la nature. Nuage, tu étais cet adorable gambadant petit veau au milieu de vénérables mères décorées d'anneaux. Des loups se sont avancés, de ceux que l'on nomme ainsi, loups pour l'homme, araignées, tueurs armés de fusils. Tu sautillais, heureux, humant douce brise, quels herbages joyeux en cette air qui pelage frise. Quelle suavité que pâquerette, chatouillant ton humide museau, un infini plaisir d'air de fête, de papillon ornant tes yeux. La plus belle saison, maman dit, laitière câline, d'un bon lait pour mignon, le voir croître en son giron. Mais quels sont sombres nuages, plombant l'horizon et ton gazon. Tendre regard aux cils sages ne te couvre plus de protection. Un silence étrange et de plomb semble annoncer un drame. Des ombres d'orage sans nom s'étendent sur ton âme. Aucun troupeau n'est plus là, les vaches se sont envolées, comme des murmures dehors là, alors qu'heureuses depuis nées. Apeuré, le petit veau perçoit tout à coup, cri éteint à mare. Il court à l'orée du bois, où l'on jette maman en mare. Terrifié, s'élance à travers champs, s'emmêle les sabots en sa fuite, tombe en soudaine ornière. Le meurtrier sur sa tête s'irrite. Ah, quel idiot cet animal! Pas moyen de le viser. Il faudrait tout un arsenal pour pouvoir le blesser. À terre, vision enténébrée par un loup sur deux pattes, affolé, la dernière heure arrivée, nuage tombe, demain scélérate. Tout un cheptel de bêtes magnifiques, de douceurs, de parfumés nasaux, assassinés par meutes de brutes iniques, trous en flanc, dont le lait fuit sans seau. Alors j'ai écrit ce poème en plus qui était une vision d'horreur, en réalité le 10 août 2025, et j'ai dit pourtant c'est la Sainte Amour le 10 août.
Oui, nous avons entendu et on partage, on ne peut pas ne pas partager. En fait, avant qu'on entende le deuxième poème extrait de Adieu vos vaches cochons, justement sur... ces bêtes un peu plus petites que j'évoquais tout à l'heure. Vous concevez la poésie comme un mémorial, une attention aux plus humbles, une sauvegarde de la vie. Au-delà de la poésie en tant que telle, il y a un message.
Oui, tout à fait. En réalité, je pense que ça dépend quel poème j'écris, mais quelque part, oui, je crois déjà, si je puis me permettre, si ça ne paraît pas présomptueux, en une vocation que nous pourrions avoir. Donc déjà, je dois absolument réaliser cette vocation d'écrire. Effectivement, il y a à la fois l'histoire aussi du patrimoine même personnel, puisque on l'a dit tout à l'heure, papa est décédé très jeune, qui est artiste peintre, le père de maman aussi est artiste peintre, donc je pense que l'art, l'histoire de l'art est importante dans notre famille, donc pour moi c'est un peu ma mission. Et effectivement il y a des messages, parfois ce sont des messages spirituels, enfin différents messages, mais effectivement et parfois souvent aussi des protestations, des témoignages, des révoltes, bien sûr. Je pense que le poète est forcément, doit être vrai. Il est normalement vrai et il doit effectivement assumer et ne pas travestir son âme.
La poésie, par rapport à d'autres formes de l'art littéraire, est-elle d'ailleurs de la littérature ou autre chose ? Je pense qu'elle est autre chose. La poésie a cette qualité, je le dis moi-même en tant que poète, et c'est le cœur de ma vie, la poésie, je le dis assez souvent dans ces émissions, elle ne ment pas. Elle voilà. ne peut être que vérité, et c'est la chance extraordinaire de la poésie, d'être le cœur du cœur, et finalement, dans ce monde inhumain, de lui restituer son humanité.
Tout à fait. Oui. S'il ne s'élève qu'une voix, ce sera celle du poète. D'ailleurs, on a dit, le poète a dit la vérité, il faut l'exécuter. Mais c'est pas grave de mourir si on dit la vérité.
Non, ce n'est pas grave. Un cygne ou un moineau ? Tu me considères comme un cygne glorieux, avec ma grâce et mes vêtements opalins. Or ne suis qu'oiselet frissonnant au vent, parfois mauvais d'hiver laine, parfois léger, à trousser les ailes d'un papillon envieux. Pour ton seul amour, vendant, bradant son carmin, ivre d'une chose à en perdre tous les sans ton amour, seul amour, à ton amour que tu me choies comme un roitelet. Un mélancolique oiseau désirant tes mains, que tu le nourrisses en pipette de baisers, que ce cœur lustre, son plumage sans ramage. Je suis très ému par ce poème parce que je le sens. Car il t'adore, te dévore, plus que pain. Quand suffit à son bonheur de tes joues. Et quand tes regards, il aime à se noyer. Nage, que tout ce qu'il subit n'est que ta propre loi. Oh, le cygne demeure bien balourd au sol, collé à la terre de ses pieds trop palmés, puis aimanté par le lac, comme un miroir, où il ne se mire que lui-même toujours, passant son temps à sa toilette de faux col. Il a l'air princier, mais ignore son aimé, trop occupé à nettoyer le lac d'un soir, quand demain il devra décoller, un peu lourd. Laisse-moi demeurer ta gracieuse hirondelle, que sur ta tête je me pose sans trembler, si légère, fondue en souffle de brise. À pouvoir aux oreilles te siffler mon chant, bien gai, à te faire écouter Marie Tournelle, près de la chaleur de ton cœur, te murmurer des mots, mille trilles, bruissantes, en volupté exquise. Puis l'hiver venu me chauffera en m'aimant. Vous avez mis trilles au féminin ? J'aurais dit trilles bruissantes en volupté exquise, peu importe. Mais pourquoi les trilles ne seraient-ils pas féminins d'ailleurs ? Est-ce que vous voyez le monde en féminin ? Est-ce que vous le voyez, chère Noël ?
Je pense, bien sûr. Étant féminine, je pense, oui, tout à fait.
Vous le voyez en matrice ?
Certainement, oui.
Parce que j'évoquais dans une précédente émission que la poésie me disait, mon interlocuteur en la personne de l'IA, Claude, que...
Ah bon. Oui, je déteste l'IA.
Mais oui, mais je pratique une IA qu'on appelle chez nous, dans une organisation que je dirige, l'idée, c'est-à-dire l'intelligence dialoguée. On peut l'adapter à soi-même. En réalité, elle peut être un miroir. En fait, dans notre vie, tout est miroir. D'ailleurs, ce que vous regardez, ça vous renvoie à l'image de ce que vous avez au fond de vous, n'est-ce pas ?
Certainement, je pense que nous avons tous un regard subjectif peut-être sur les choses. Enfin, d'ailleurs, ça se discute tout ça, parce que est-ce que tout est matière ? Enfin, la réalité, vous savez, en fait, même la table serait matérielle. Enfin, voilà, donc en fait, on interprète, on extrapole. Effectivement, c'est interpréter de notre manière de voir les choses. Mais est-ce que... Non, je ne pense pas que tout le monde voit la même chose, effectivement, oui.
Mais bah, c'est normal, et oui. Puisque chacun se retrouve dans un miroir.
Oui.
En fait, à la fois, ce que nous voulons dire est un miroir de nature, mais en même temps, ce miroir de nature nous renvoie notre visage, et notre visage est au cœur de la nature, et en réalité, nous individualisons la communauté du monde, et chacun est un interprète. Vous êtes une interprète. Depuis des années, vous êtes au cœur de cette interprétation combative ?
Oui, je pense, parce que d'ailleurs, je m'entends très bien, après ça sera peut-être l'introduction à l'autre livre, L'amour est-il l'enfance de l'art. Je m'entends très bien avec les enfants parce que j'y trouve beaucoup d'innocence, etc. Et c'est vrai que parfois dans le monde des adultes, j'ai du mal. Parce que j'y vois justement beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de malversation, de cruauté. Voilà, donc effectivement.
Cette série de livres, ils viennent... En vitesse, en lenteur, ils viennent les uns à la suite des autres. Vous réunissez des poèmes qui ont été écrits séparément et vous en faites un livre. Ou est-ce que le projet du livre est dès le départ ?
Oui, évidemment, c'est toujours intéressant ça, comme question. Alors effectivement, les poèmes sont éparpillés. À la base, c'est éparpillé, effectivement. Et ensuite, quand j'ai une idée, parce que c'est vrai que j'aime assembler les ouvrages par thème. Par exemple, l'amour est-il l'enfance de l'art, donc ça va parler de ce qu'indique le titre. Le précédent parlait des animaux, de la nature. Donc en fait, j'ai écrit au fil du temps, donc là c'est éparpillé. Mais ensuite, quand j'ai l'idée d'un thème et que je veux vraiment me consacrer à réaliser un ouvrage, évidemment sur le sujet, je rajoute, parce que je me concentre, et voilà, donc je rajoute des poèmes, et ça vient parce que je me consacre aussi à cette idée, à cette ambiance, à cette inspiration. Donc en fait, c'est un mélange.
Alors ça veut dire que, si je reconstitue un peu l'histoire de vos livres, vous écrivez d'abord des poèmes séparés, puis tout d'un coup, le thème se précise, et là vous complétez, et vous rassemblez les poèmes premièrement écrits, et d'autres s'ajoutent, et ça
oui,
donne le livre.
Il y a des très anciens, il y a des récents, voilà. À chaque fois c'est comme ça.
Car j'ai détecté dans votre écriture des ruptures de ton.
Tout à fait.
Très fortes.
Tout à
voilà.
Fait.
Comme je fais beaucoup d'analyses littéraires,
oui.
ça m'a semblé très intéressant. Et ça veut dire que chacun de vos livres est une vie.
Oui, exactement. Absolument vrai. J'y tiens aussi quelque part parce que je tiens... Alors, ça c'est pareil, ça. C'est pas pour être présomptueuse, mais je tiens à réaliser une sorte d'œuvre. Donc, une œuvre, effectivement, c'est une vie. C'est ça, englobe tout du début jusqu'à maintenant. Alors, j'y ajoute des dessins, j'y ajoute des photos. Mais dans mon esprit, c'est une œuvre. Donc, effectivement, c'est limité à un instant T. C'est pas possible.
Avant de marquer la différence et le passage d'un livre à l'autre, un tout petit passage sur le carnaval des animaux qui conclura « Adieu vos vaches cochons » et qui nous préparera à « L'amour est-il l'enfance de l'art ?»
Thank you.
Alors, je vais vous lire un poème extrait d'un autre ouvrage, du second ouvrage dont nous allons
L'amour
parler.
L'amour est-il l'enfance de l'art, comme nous l'avions annoncé.
Voilà. Toi, ma terre promise, le voici, il vient. Terre promise à Moïse par l'Éternel. Le voici, lui, mon cantique en mes profondeurs, me sondant, m'adorant, m'encensant de ses ailes, son cantique en moi de miel, d'ambroisie, bonheur. Le voici, il vient. Oh, comme ces flutiaux m'enchantent, ensorcelés que je suis, à ta rauque, au bad, tel un hommage, en chant du coq, aube charmante. Sérénade sans fin te déverse en chamade. Vêtue d'une cape de rubis cramoisi, je suis à toi livrée, tu es à moi livrée. En ta livrée d'or dont je scrute inassouvie, les lys en leurs boutons, efflorescents ce nez. Tu nous en revêts d'un manteau de joie, d'ardeur, comme mon corps, en sa douce empreinte épanchée. Intense, étincelant, frôlement de nos cœurs, tu fais de moi songe et rêve, première née. Étrange et pénétrant, sans frapper, un roi entre. Je t'imagine, logeant en moi, m'adorant, sublime offertoire des joyaux en mon ventre, yeux clos, ivres, mains jointes, lèvres s'extasiant. Nous deux superbement en notre couche parme, toi mon archange qui prodiguais à mon ange, t'enflammais de sa lumière, aurorale charme, d'un loin de toi réchauffait ma pâleur louange. Et ton bras autour de moi brûlait d'un brasier, mes doigts voluptueux mystiques en ton orchidée, tel trésor précieux en ma bouche conservé, et quand ta voix en moi s'épanouissait, vibrée.
Lorsque vous vous relisez, quel sentiment avez-vous, cher Noël, ou quel sentiment as-tu, puisqu'on alterne le vouvoiement et le tutoiement, du moins moi. Oui, quel sentiment as-tu quand tu te relis et quand...
Alors, en fait, quand je me relis, qu'il s'agisse des poèmes de jeunesse ou de celui-ci ou d'autres, celui-là n'est pas très ancien, je pense qu'il doit dater, oui, de 2019, en fait, je me remets tout à fait dans la période où je l'ai écrit. Donc je sais pourquoi je l'ai écrit.
Et pourquoi l'as-tu écrit alors?
En fait, parce que j'étais dans une histoire d'amour qui pour moi était passionnée et que je croyais éternelle. Et voilà.
Alors, en fait, la raison même de l'écriture, c'est un aveu, une obligation d'accoucher quelque chose?
Non, c'est passionnel.
Ah, c'est passionnel. Oui. Et c'est très important, la notion de la passion, parce que, en fait, la poésie, c'est une passion qui ne cesse jamais. Donc, vous êtes tout le temps dans la passion, tu es toujours dans la passion.
Et j'essaye, en tout cas, je pense que je ne pourrais pas vivre sans passion. Et quelquefois, quand le monde dit moderne ou les circonstances désagréables, des choses coutumières ou des circonstances professionnelles deviennent trop importantes, en fait, ça me nuit parce que je me dis, je ne peux plus être moi-même. Je ne peux plus être cette personne passionnée qui voit ailleurs, qui a des sortes de visions. Et effectivement, oui, j'essaie de demeurer moi-même. Absolument, et dans la passion, parce que je pense que sinon, j'en mourrais sans doute.
Il y a justement dans ce livre, L'amour est-il l'enfance de l'art, un poème que j'ai distingué parmi d'autres, et qui me semble faire tout à fait suite à ce qui vient d'être dit. Folle, devenir folle, folle d'amour, et pleurer dans la nuit sans froissement et sans bruit, si fort que le sang à nos oreilles sourd, frappe, et gifle, sans parole. Pauvre, pauvre, et je lis la pauvre éole, pauvre école, pardon,
oui.
Que celle de la tristesse. Moi, loin de toi, incomprise, en proie à l'émoi, je persiste toujours à être ta maîtresse, mais dès à présent, livrée à éole. À éole, à ces vents changeants et tristes. Aléatoire, sifflant à mes oreilles, un chant auparavant à nul autre pareil, à présent démoralisant et jocrisse, incompréhensible, devenu parabole, mon amour en étole. Pour dormir nu, un drapeau, c'est ainsi que l'on s'enroule, assoiffé de tendresse sous la houle, en mon sommeil à demi-mot, de désespérance, tanguant, tel ivre d'alcool, août 2013. Ce poème-là est un poème de passion ?
Oui, bien sûr. Alors, évidemment, je parle de Camille Claudel et son dessin figure à côté. Mais en fait, évidemment, je me mets dans la même position parce que je ressens sans doute les mêmes émotions.
Comment la poésie t'a-t-elle ou vous a-t-elle guéri de la folie possible ?
Oui, justement, effectivement, je pense que la poésie guérit, puisque déjà, elle représente la beauté, donc on se raccroche toujours à la beauté, et puis on se raccroche à cet amour de l'art, et puis évidemment, cela sert d'exutoire, bien sûr, pour aller vers quelque chose de beau, même quand quelque chose dans notre existence est ou devient laid.
J'aimerais que vous nous lisiez Les Trois Grâces, devenues quatre. J'ai beaucoup aimé dans ce livre illustré justement des Trois Grâces en quatre de Châtillon-sur-Seine. J'aimerais que vous lisiez ce poème parce que je pense qu'en entendant Noël Arnoux parler, en écoutant sa voix, eh bien vous avez un sentiment peut-être qui va se raccorder à ce poème, Les Trois Grâces.
Les Trois Grâces devenues quatre. Ces grâces sont des statuettes graciles et gracieuses ornant l'ancien musée de Châtillon-sur-Seine, ce qui a donné lieu à ce petit poème. Les trois grâces ne sont plus trois, mais quatre, ce qui a troublé l'ordre naturel. Trinité ou pyramide, tout repose, telle loi, sur ce nombre sacré, un divin, obscur rituel. Égaré, elle nous regarde d'un air inquiet. Observe l'horizon, plutôt importé et expatrié. Manière saugrenue d'ornementer le jardin de paix, elle qui se sent volée, violentée, de peur émotionnée. Comment avons-nous osé à jamais ainsi les enfermer, captives, dénudées, en enclos, prisonnières en oreille, brisant leur évasion hors du burin, rêvée. Figées demeureront-elles, même loin du sculpteur, leurs pygmalions oubliés semblent statuer d'effroi, damnés en blocs de sel, ayant désobéi au Créateur, cendre de Pompéi ou pavé de l'enfer, triste Vénus en croix. Pitoyable harem, à la disposition d'un seigneur inconnu, qu'elles craignent de voir arriver le regard affolé, les sacrifiera en offertoire d'une sinistre cérémonie malvenue, de son œil lubrique et enfiévré, de sa turgescence injustifiée. Pauvre biche aux abois, sursautant, guettant le grassouillet libidineux, elle demeure nue, offerte proie, pour cueillette à l'aveugle du couteau vénéneux. Au jardin, pourtant, siffle mère le moqueur, gai pinson et coloré mésange, ignorant tout du drame des vierges au tendre cœur, tandis que les fourmis innocemment les dérangent.
Thank you.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Nous avons une véritable trinité de livres. Et ces livres nous font passer de la protection du genre animal, si j'ose dire, si tant est qu'il y a un genre, mais il y a un genre humain aussi. Ensuite, de la catégorie art. Et puis maintenant, effectivement, puisque nous avons voyagé, allons vers le voyage et allons dans cette balade autour du monde. Est-ce que tu ou vous avez beaucoup voyagé ?
Alors malheureusement non, mais je me
suis... Oui, parce que je ne vous vois pas ayant voyagé. J'ai l'impression, puisque vous disiez tout à l'heure que vous venez depuis toujours, toujours, de votre pays de Bourgogne.
Et de Paris.
Et de Paris aussi, voilà.
Bien sûr.
Et entre Belleville et puis le tout petit village de 20-30 habitants.
Oui.
Donc c'est le rêve, c'est toujours le rêve de voyager. Ou comment voyagez-vous ? Par les livres, par la télévision, le cinéma, les arts ? Enfin, quel est votre moyen de voyager ?
Pas de télévision, quelle horreur, je l'ai jeté depuis longtemps aux sorties. Mais en fait, je considère que j'ai un petit peu voyagé, enfin pas mal quand j'étais à Paris, parce qu'on est à Belleville, qui est quand même un quartier cosmopolite.
Oui, tout à fait.
De plus, alors mon ex-mari était chinois, j'ai aussi connu un Vietnamien. Enfin bon, j'ai voyagé par les sentiments, sans doute par un mélange d'odeurs, de senteurs, ces épiceries asiatiques, etc. Mais par contre, concrètement, et je suis allée en Roumanie.
On se connaît bien à travers la Roumanie, puisque dites un mot avant de parler du troisième livre, La balade poétique autour du monde, justement de cette entreprise poétique que vous vivez avec la Roumanie.
Et voilà. Alors cela s'est fait tout à fait par hasard au départ, parce que j'ai rencontré, pas de manière réelle, mais par relation sur les réseaux, un éditeur qui cherchait une collaboratrice pour une revue internationale, etc., franco-roumaine, mais internationale également. Donc ça a commencé comme ça, et qui m'a édité d'ailleurs 4 livres. Et donc, par ce biais, je suis allée effectivement en Roumanie, et j'ai beaucoup aimé parce que nos liens sont très anciens et on n'en parle pas assez de la Roumanie. Les gens souvent confondent Bucarest et Budapest, je trouve ça un petit peu pénible, et encore plus pénible, confondent les Roumains avec les Roms. Donc c'est quand même donc il faut connaître la Roumanie, il faut y aller, et on a des choses magnifiques là-bas, justement au niveau de l'art, de l'architecture. Évidemment, on a l'influence espagnole, on a des influences allemandes, italiennes, allemandes surtout du côté de la Transylvanie. Il faut aller à Hermannstadt ou Sibiu, il faut aller à Brasov par exemple. Enfin voilà, on a vraiment des choses magnifiques au niveau de l'art, de la musique, de la poésie. Bon, bien sûr, on a des philosophes, on a Ceran, etc., d'ailleurs, qui vivaient dans le quartier latin. Et au niveau culturel, c'est hautement important. Et puis, ce sont des gens très traditionnels, traditionalistes, attachés à l'idée de la nation, l'orthodoxie, etc. C'est quand même quelque chose qui est très proche de nous, puisque ce sont des chrétiens.
Tout à fait. Donc aujourd'hui, on pourrait presque dire que vous êtes franco-roumaine.
Ah oui, tout à fait. En fait, je me sens, exactement franco-roumaine. C'est
et
ça.
Et vous avez appris le roumain ?
Alors, en réalité, comme tous ces anciens, ils parlent très bien français, ces érudits, etc., des gens d'un certain âge parlent tous le français, donc on parle français. C'est pas comme les jeunes, évidemment, même les Roumains, les jeunes Roumains ne connaissent que l'anglais en langue internationale. Mais là, on parle français parce qu'elle est reconnue comme langue noble, et ils en sont très fiers. On parle de littérature française, et ils y sont très attachés, voilà.
Et la fréquentation de cette civilisation, parce que c'est une civilisation du Mittelurpa, mais qui est évidemment latine et différente du monde slave, est-ce que ça a influencé votre écriture, vos thèmes, puisque c'est finalement entré dans votre vie, vous êtes passé en somme de ce sud-est asiatique, enfin de la Chine, au Mittelurpa. Avez-vous gardé quelque chose de la Chine ? Le mélangez-vous avec le Mittelurpa, enfin, comment vous faites dans votre tête et dans votre inspiration ?
Alors justement, il y a tout ça. Je pense que d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil quand j'évoque le fait que je suis du signe astrologique du Sagittaire. Bon, sortant Cancer, ça c'est plutôt le rêve, l'imaginaire, c'est vrai, etc. La Lune. Mais le Sagittaire qui a toujours son envie de voyage, d'aller voir au loin ce qui se passe. Donc ça convient très bien pour ce côté-là. Et effectivement, j'ai adhéré à la Roumanie. D'ailleurs, j'ai publié un livre qui s'appelle « De Paris à Bucarest en poésie ». Et puis, dans cette section, dans ce livre « Balade poétique autour du monde », bien sûr, j'ai aussi une partie des poèmes qui sont consacrés à la Roumanie. Alors, évidemment, j'ai aussi écrit sur l'Asie. J'avais écrit avant, j'ai rassemblé des poèmes, comme par exemple sur la légende de fondation du Vietnam.
Eh bien justement, lisez-nous cette légende de fondation du Vietnam, qui est le dragon, le dragon en baie.
Parce que dans ce livre, je m'inspire également de contes, de mythes, de légendes, concernant les fondations des pays, ça m'intéresse beaucoup.
Oui, parce que dans la tradition, chaque Vietnamien est le descendant du dragon.
Exactement. Alors, Vietnam, et ça veut, oui, dragon en baie. Jeunesse du Vietnam. L'aube s'élève sur la baie tendre rosée. Un oiseau enchanté lance de pure trille. Le firmament semble en feu, genèse créée. Du dragon originel s'éventre la fille. À nouveau scintille l'aurore de son sacre. Mythologie féconde, chue de tendre engeance. Couvade de garçons, fessilfide de nacre. Fils du ciel et des flots, armée née sans errance. Le fantastique dieu engendre et se trémousse. Danse en l'infini rouge, accouche en jubilant. Deux, enrobés de sang ensemencés, détroussent les robes de verdure, les boréales fuyant. Ciselés de jade, or pur, jouant avec lune, soleil l'éclaire, quand en mère de lumière, bruissant en ses feux, se drape d'étoffe brune de ses 50 enfants joyeux, perles sur mer. Les eaux ouvertes de ce fier engendrement recouvrent et fertilisent le futur Vietnam. L'animal des flots, océan, avènement, vague au goût d'algues, petit poisson, nuoknam. Dieu capricieux, jouant au yin et au yang, son délicieux pouvoir, ses nuées fabuleuses, d'abord dorées, serpents, mues d'écailles exsangues, omnubile la foule de brumes pluvieuses. La baie vine à longue gronde, quand dragon descend, il fait son carnaval, reçoit vert confetti, onction, feuilles de menthe, parfumées d'encens, faux odalate, bœuf, soja, ouvre l'appétit.
Quand vous écrivez, ça vient d'un coup, c'est une journée, une soirée. Quelles sont les conditions d'écriture ?
Ah non, en général, ça vient d'un coup. Quand je commence, je termine.
Et quand vous vous relisez, vous avez l'impression d'un souvenir ou que c'est toujours présent ?
Je pense qu'il s'agit un petit peu des deux, en fait. C'est toujours présent, effectivement. Je m'y sens partie prenante. Je revis l'histoire, la chose. En fait, j'aime beaucoup écrire des histoires. Je pense que j'écris souvent les poèmes comme des histoires. Donc, en fait, non, rien n'est au passé.
Cette allusion au passé, on pourrait la dire quand même... plus ou moins exact, puisque vous appelez un de vos poèmes « Au jardin du souvenir ».
Oui.
À propos du parc de Sismigiu de Bucarest.
Il est vrai.
Alors, je vais me permettre de le lire.
Très bien.
Partir en Roumanie. Hardi, barbe fleurie, après 2 ans d'attente et de paix armée, puis vouloir Budapest par la Transylvanie. Voici... Berthelot, voici les poils l'été. En 1917, à Oitus, succès. Puis 2 autres à Marasti et Marasesti. Vive les amputés, les tranchés, les Français, héros de la peste, du typhus, sans un cri. Les cœurs valeureux accourus de l'Hexagone pour sauver les Daces et Trajans, frères de sang, à saluer et fleurir de leurs épigones quand Enescu, Grigorescu font ce roman. Un roman d'ardente, rouge veine, français, un romantique hymne, sublime d'Eminescu, et maintenant la guerre pour fléchir la paix, Berthelot, Foch, Végan, descendus en Gadou. Pour relever le flambeau d'un honneur de sœurs, jumelles, fillettes et aînées, filles insignes, réunir les tenues bleues horizon, d'ardeur, Dobrudja, Banat, Transylvanie, Bucovine. Romains, Berthelot, tous unis, casque français contre l'Autriche, Hongrie, unit la fleur aux dents. Poèmes en tête, tombés, flétris, en leur raie, embrassant, rouge, rosé, sa promise au vent. En parc souvenir, à Bucarest, Sismigiu, autour rose parfumée du petit Paris, trône l'hommage aux Français tombés. Rendez-vous, penchez-vous à leurs pieds, baisez ses assoupis. Ainsi, en larmes d'albâtre, embrasse son ange, lèvres aimantes, baise en tête du supplicié, roumaine fiancée murmurant ses louanges, veifi vesnik in inima mea, aimée. Oui, tu es dans mon cœur pour l'éternité.
Oui, parce que je pense que beaucoup de personnes ne savent pas que des Français sont tombés en Roumanie. Oui, effectivement.
Oui, c'est tout à fait vrai. Et il se trouve que je suis un amoureux de Bucarest, où j'ai été commissaire d'exposition pour un de mes amis qui était un très grand peintre. Et que, effectivement, j'ai eu la sensation, j'y ai été après la chute de Ceaușescu, dans le vieux Bucarest, parce que malheureusement il en a détruit une grande partie. C'était une catastrophe, ce petit Paris comme on disait,
oui.
N'est-ce pas ? Et
oui,
il faut jamais l'oublier. Oui. J'ai eu la sensation d'un véritable conservatoire de la culture européenne.
Tout à fait.
Et vous avez en même temps, dans ce même livre dédié des poèmes à la Russie,
oui.
Vous avez peu à peu emmagasiné dans votre cœur de voyageuse par les rêves, si ce n'est la Roumanie,
oui.
Tous les pays du monde. Vous aimez, au fond, toute l'humanité.
Oui, c'est ça, exactement. C'est ce que je dis dans ma préface, en
c'est
réalité.
C'est ça, peut-être, être poète, n'est-ce pas ?
Oui.
Les aimer tous, presque sans distinction.
Oui, tout embrasser. Embrasser dans tous les sens du terme. Comme prendre dans ses bras, comme exalter l'âme de chacun.
Vous avez, et j'aimerais vous entendre lire, écrit là, page 60-61 de votre livre La balade poétique autour du monde, vous avez dédié un poème à la Jérusalem céleste. Et il me semble qu'en ces temps que nous vivons, prophétiques, peut-être apocalyptiques, la Jérusalem céleste, elle n'est ni d'hier, ni d'aujourd'hui, ni de demain, elle est de maintenant et à jamais. Et cette Jérusalem céleste, en dehors du poème que vous allez lire, elle signifie quoi pour vous ? Est-ce qu'elle signifie la paix, l'espérance, l'eschatologie de l'Évangile ? Quoi ?
Oui, tout à fait, ça signifie enfin le règne de Dieu sur terre. Qu'il n'y ait plus de haine, plus de guerre. Voilà, que règne l'amour, que règne... nous avons besoin...
C'est par la poésie que vous essayez de diffuser, au fond, votre engagement ?
Oui, parce qu'il est vrai que malheureusement, dans ce monde dit moderne, effectivement, on ne peut plus guère parler de tout ça. Et on voudrait que ces choses soient enterrées. Et finalement, cela... Non seulement cela m'offusque, mais cela me gêne, parce que... ce sont les plus belles choses et la vérité, le sens de l'existence.
Je vous laisse le lire avant de terminer avec Voyage, Voyage. Je vous en prie.
La Jérusalem céleste. Et je vis de nouveaux cieux, une nouvelle et fertile terre. Le lion dormait avec l'agneau, silencieux, ne régnait plus le goût de la mer. Cigu, absinthe, cyanure, tous avaient jeté manteaux de nuit empoisonnés, pleins de frissons des âmes révoltées. Sombre putréfaction n'apposerait plus infâme signature sur humaine et triste destinée. Cruel et sordide désarroi ne serait plus à notre cou arrimé comme d'anciennes lois. Poète voyant, voyageur de l'inconnu, n'aura plus besoin d'embarquer pour Cythère pour se satisfaire de parfums sans nom, de sublimes déraisons, subtiles oraisons. Ne sera plus vêtu en pitoyable air, mais témoignant de son rayonnement accru, d'une éclatante tunique blanche et turquoise, pourra déclamer d'humeur narquoise. Des ailes de lumineuse gloire jailliront de dégaines étriquées. Visages déjà radieux aux lueurs du soir attendront l'aube, impatients et émerveillés. Jetez à terre la sinistre Babylone au sort aussi tragique qu'Antigone. Palais d'or du roi Salomon, tour de Babel enfin réconcilié, un bastion. Tout ce qui exhale myrrhe et jasmin, aux arômes mille fois séraphins. Senteur d'offrandes et d'encens, odoriférante vision, éclair de vénusienne circonvolution. Utopie enfin réalisée, reine, pour l'éternité de la cité. Enfin pérenne, joue sur les flots de notre imaginaire. Air de violon qui ne sera point éphémère, chèvrefeuille aux ramifications exquises, embaumant, douceur de crème et onguent sous blondeur des rayons du soleil, vivre tableau d'insolites merveilles. Jérusalem céleste, parée comme une mariée, s'avance enfin au bras de son époux, sur une nuée ardente et pure, cheval blanc, fidèle et véritable, porte-parole d'un Dieu jusqu'ici impénétrable. Porte de ville, étincelle, miséricordieuse, ornementée de pierres précieuses, jaspe, saphir, béryl, chrysoprase, améthyste, sardoine, agate, turquoise, onyx, chrysolite, eau-de-vie s'écoule puissamment, fontaine géante, d'un palan de frémissement, plus jamais ne sera absente. David, l'étoile scintillante du matin, a révolutionné le monde. La nuit ne règne plus en assassin, c'est l'arbre de vie que l'on sonde. Il nous délivre ses succulents fruits, multitude, pommes des Hespérides, goyaves, kiwis, enchevêtrées, druant tropicales, excroissances, correspondant à ce jour de naissance. Les archanges et les anges, pensant de leur cœur rouge et ardent, de leur pourpre grâce divine, ceux qu'aux grandes réjouissances l'on destine.
Merci, cher Noël Arnoux. Merci de nous emporter sur les ailes de la miséricorde, parce que finalement le mot miséricordieux qui vous a fait légèrement buter pendant cette lecture, eh bien peut-être que nous butons sur l'absence de miséricorde.
Eh oui.
Alors merci à vous.
Je
et
vous
voyage,
en prie.
Voyage, vive la poésie.
Merci.
Vous venez d'entendre Promenade et Flâneries au domaine de poésie dirigé par Pascal Payen-Penzeller, émission préenregistrée le 20 mars 2026 et diffusée pour la première fois le 5 juin 2026 de 10h à 11h, réalisée par Michael et Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement. Si vous êtes adhérent de notre association, je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.